Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot. This is why I'm hot.
France Culture, bienvenue dans Soft Power, le magazine des industries culturelles et du numérique en direct jusqu'à 20h30. Pour un prélèvement abusif, un Français qui a des revenus modestes peut être interdit bancaire. Pour se désabonner de SFR ou de Bouygues, il faut parfois des semaines de négociations avec un représentant de service après-vente qui vous parle depuis la Roumanie ou depuis l'Algérie. Et nous connaissons tous les cas de personnes âgées ou d'adolescents qui ont été arnaqués, car c'est bien le mot qu'il faut employer, par des démarcheurs téléphoniques peu scrupuleux ou des abonnements à des jeux vidéo qui se sont mis en marche sans qu'on s'en rende compte. Bref, de tous ces abus liés à Internet, aux opérateurs télécoms par exemple, nous parlons ce soir dans Soft Power, émission consommation d'eau, donc avec mes deux invités, Maxime Chipoy, porte-parole de meilleurbanque.com, bonsoir.
Bonsoir.
Et puis Vincent Cocaz, journaliste à Libération, bonsoir.
Bonsoir.
Avec vous deux, on va évoquer tous ces problèmes, toutes ces questions, sachant qu'il y a des solutions, mais elles sont parfois difficiles à trouver. On en présentera, on en proposera quelques-unes. Toujours au sommaire de cette émission, dans un instant, l'actualité de la politique culturelle, des industries créatives et des médias. Et puis, en seconde partie d'émission, à 20h, l'invité innovation. Ce soir, Zoé 16, vous recevez Dominique Cardon.
Dominique Cardon, sociologue, directeur du Media Lab à Sciences Po, qui publie Culture numérique, un très beau pavé à Sciences Po. Les presses, ça n'est pas un ouvrage de sociologie, c'est un ouvrage, disons, qui compile les cours qu'il donne dédiés à la culture numérique depuis des dizaines d'années. C'est
didactique.
Un très très bel ouvrage pour comprendre tout de l'internet au web, c'est pas la même chose, aux enjeux de demain. On va comprendre pourquoi, on va essayer de voir avec lui pourquoi il lui paraît indispensable aujourd'hui que cette culture numérique soit partagée par tous et enseignée sous tous ses aspects.
20h10, le club de la presse numérique. Nous parlerons de l'étrange revirement de Facebook sur les données personnelles. Et nous serons pour en débattre avec Gilles Fontaine de Challenge et Elliot Lepers, entrepreneur fondateur de l'ONG, le mouvement.ONG. Voilà pour le sommaire de ce magazine Soft Power ce soir. Une émission réalisée par Anna Holweck avec en régie Anthony Thomasson. Elle a été préparée par David Lavaux. Soft Power, c'est aussi sur les réseaux sociaux, mot-clé Soft Power, et en podcast chaque semaine sur le site de France Culture, sur iTunes et sur l'application podcast de votre smartphone. Soft Power jusqu'à 20h30 sur France Culture en direct. L'actualité, comme chaque semaine, actualité de la politique culturelle, des industries créatives et des médias, en début d'émission avec vous, Zoé Svez. Trois sujets ce soir. On commence par les annonces ce matin dans le journal du dimanche de Franck Riester, le ministre de la Culture, annonce qui concerne l'audiovisuel public.
Oui, alors c'est intéressant parce que Franck Riester est resté plusieurs semaines d'une assez grande discrétion après avoir pris ses fonctions, alors qu'on sait qu'il doit trancher sur des sujets assez brûlants, notamment sur celui de l'audiovisuel public. Il commence à s'exprimer un peu dans la presse et on commence à avoir un peu plus de... y voir un peu plus clair sur ce qu'il est possible ou pas de faire. Il était de passage déjà, faut le noter, cette semaine dans la matinale de France Culture où il a fait pas mal d'annonces sur l'arrivée de la RNT. Vous connaissez la RNT, la Radio Nationale Terrestre.
C'est une technologie...
numérique terrestre. Alors c'est très beau, c'est un très très beau lapsus que je viens de faire. Pourquoi ? Parce que c'est une technologie qui, en comparaison de la FM, offre plus de fréquences, une écoute continue, surtout en mobilité, plus fiable, avec une qualité de son beaucoup plus stable. Et donc pourquoi est-ce que j'ai dit national ? Parce que à ce moment-là, il a annoncé qu'il avait pour l'audiovisuel public préempté plusieurs fréquences pour donc France Inter, France Info, France Culture, Musique, FIP, le MOVE, et que par ailleurs, le lendemain, juste le CSA a annoncé qu'il avait sectionné 24 radios qui se sont vues donc offrir des fréquences, qui auront droit à des fréquences. Pour Radio France, par exemple, ça va coûter 10 millions d'euros d'être présent sur la radio numérique terrestre. Voilà, 24 autres fréquences accordées sur 40 dossiers reçus. Et puis, il développe un peu plus, Franck Riester, sur cette réforme de l'audiovisuel public qui est très attendue dans le JDD ce matin. Alors, on apprend qu'il compte bien présenter cette fameuse loi, parce que quand même, rappelez-vous, elle était annoncée pour septembre, puis elle a été annoncée pour ce printemps. Et là, on ne la voyait toujours pas arriver. Franck Riester confirme qu'il veut la présenter en Conseil des ministres avant juillet et qu'il espère en tout cas la faire entrer en vigueur avant l'été 2020. Alors, sur la régulation du secteur, c'est l'un des grands dossiers. Franck Riester confirme qu'il souhaite le rapprochement entre le CSA, la DOPI et l'ARCEP, le gendarme du numérique, et donc chacune de ces institutions conserverait ses attributions respectives, mais il serait sous la tutelle d'un patron commun. Donc l'idée,
donc,
on en parle souvent.
Conseil d'administration commun.
Voilà, et l'idée, c'est qu'en gros, les tuyaux sont de moins en moins différents et que c'est la question des contenus qui est la plus importante. Sur la question du financement de la création, là encore, question très épineuse. Alors là, rien de ferme, c'est un peu plus frou. Franck Riester dit vouloir mettre les plateformes de partage de vidéos. Alors ça va de M6 Replay à Netflix, bien sûr, en passant par Amazon Prime, au cœur de sa réflexion, je cite. Donc, si on essaie de comprendre, ce serait globalement les faire contribuer d'une manière ou d'une autre. La question reste encore de savoir évidemment comment. Enfin, et c'est un des dossiers les plus épineux et les plus explosifs surtout, c'est l'audiovisuel public. Franck Riester confirme qu'il veut un audiovisuel public, je cite, fort, regroupé au sein d'une holding dont le patron serait nommé non plus donc par l'exécutif, comme c'était le cas jadis, ni par le CSA, mais par un conseil d'administration, un board, comme c'est le cas, par exemple, pour la BBC, aujourd'hui, et ce depuis plusieurs années. Alors, la question encore est, qui composerait ce fameux conseil d'administration? Autre question cruciale, alors là, quasiment aucune réponse avancée, c'est celle du financement de cet audiovisuel public. Et il faut quand même dire que c'est deux questions qui sont tout à fait liées. Et cette question-là, elle reste en suspens. La piste d'une redevance universelle qui serait payée par tous les contribuables, comme c'est le cas en Allemagne, où on part du principe que l'audiovisuel public est un service comme un autre et que tout le monde doit la financer, comme l'éducation nationale, même si on n'a pas d'enfant. Elle semble définitivement écartée, cette piste. Reste celle d'une redevance adossée à l'impôt sur le revenu, par exemple, ou à l'impôt foncier, puisque je rappelle que pour le moment, elle était sur la taxe d'habitation qui a disparu ou va disparaître. Là, Franck Riester ne se prononce pas du tout, et on sait que les débats en interne, aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, sont très vifs. Et la question, elle reste quand même, comment on peut repenser un audiovisuel public fort si on ne sait pas comment on le finance? La question reste entière.
Autre information dans l'actualité de la politique culturelle, ce coup-ci, c'est Stéphane Bern avec ses propositions en matière de loto du patrimoine dont on a appris aujourd'hui les heureux élus.
Les premiers heureux élus, c'est la deuxième édition de ce merveilleux loto du patrimoine avec donc l'inénarrable Stéphane Bern qui est aux commandes. Je rappelle quand même que l'opération avait rapporté 22 millions d'euros l'année dernière. Il y avait eu 269 monuments en péril qui avaient été soutenus. Cette année, il y a eu quasiment 900 dossiers qui ont été soumis, c'est assez important. 18 ont été sélectionnés et c'est ceux qui vont figurer sur les jeux à gratter, les tickets de grattage. Parce que je rappelle que ce loto du patrimoine, il y a deux principes. Il y a des tickets de grattage à 15 euros. Et cette année, il y en a de nouveau à 3 euros, donc un peu moins important. Les 18 sites qui ont été sélectionnés aujourd'hui donc, seront directement financés par ces tickets de grattage. Alors on peut quand même comme ça citer le château de Maulne dans l'Yonne, le moulin de la Fontaine dans le Loir-et-Cher, l'abbaye de Sainte-Marie dans le Calvados ou l'abbaye de Sénanque dans le Vaucluse qui pour le coup est vraiment sur le point de s'écrouler, qui a besoin de 2 millions d'euros à minima pour rester sur place. Je rappelle que ce loto du patrimoine, il n'est pas toujours pas exempté de taxes en dépit des différentes propositions faites au député, ce qui continue d'agacer considérablement Stéphane Bern. Alors le but cette année, c'est d'atteindre 25 millions d'euros par ce loto du patrimoine. Je rappelle donc qu'il y a 100 autres sites qui vont être sélectionnés d'ici le mois de juin. Et ces 100 autres sites, eux bénéficieront du super loto du patrimoine. Là, c'est le fameux loto avec une grille. Et ensuite, les gains seront répartis.
Pour terminer cette actualité, le soldat Chelsea Manning est retourné en prison, Zoé Sfez.
Chelsea Manning qui est retourné en prison, on va dire quelques mois après en être sorti. Petit rappel des faits, Chelsea Manning, qui s'appelait auparavant Bradley Manning, c'est ce lanceur, cette lanceuse d'alerte qui avait été arrêtée en 2010 parce qu'il avait avoué avoir transmis à Wikileaks toute une série d'informations, des vidéos de frappes aériennes sur des civils en Irak, toute une série de documents diplomatiques du département d'État des États-Unis. Il avait été condamné, à l'époque c'était donc toujours un soldat et c'était un garçon, en août 2013 à 35 années de prison. Ensuite, il a déclaré qu'il faisait sa transition, qu'il souhaitait désormais être appelé Chelsea, et elle a été donc libérée, Chelsea, en 2017.
Grâce à une grâce à une
commutation
Obama.
De peine, Obama qui a cédé sous la pression de l'opinion publique. Et en fait, elle retourne en prison. Pourquoi ? Elle a été arrêtée parce que, elle refuse aujourd'hui de témoigner dans le procès qui a lieu aujourd'hui, qui lui porte sur Wikileaks. Elle reste restera écroué tant qu'elle ne reviendra pas sur sa décision ou jusqu'à ce que le grand jury qui lui a demandé de comparaître soit dissous. Voilà, elle affirme, elle, bénéficier d'un droit constitutionnel à ne pas être interrogée par ce grand jury dont elle dénonce l'opacité des actes de procédure. Je rappelle qu'on est toujours dans le contexte d'une justice dite secrète, donc c'est pas tout à fait les mêmes règles que la justice fédérale normale. Elle reste pour le moment dans sa position, mais effectivement, il est tout à fait probable qu'elle passe encore plusieurs mois en prison.
Dans un instant, nous parlons de pouvoir d'achat, de consommation et de numérique. Mais juste avant, pour terminer cette séquence d'actualité par une actualité musicale, un morceau du Libanais Gabriel Yared qui signe la bande originale du nouveau film de Xavier Dolan, Ma vie avec John Donovan. Spécialisé dans les musiques de films, Gabriel Yared a déjà composé ou adapté de nombreuses bandes originales, y compris pour Xavier Dolan déjà, dont notamment celle de Juste la fin du monde. Le film de Xavier Dolan sortira ce mercredi. C'est le premier film en anglais du cinéaste québécois chouchou des médias français. Le film creuse le filon classique de l'apprentissage du cinéma par un jeune acteur qui se remémore la correspondance qu'il a jadis entretenue avec une vedette de la télévision américaine. Ma vie avec John Donovan sortira en salle mercredi. France Culture, 19h14 précisément. Vous êtes en Soft Power jusqu'à 20h30. Internet facilite la vie des Français. Le web nous évite de faire la queue, un guichet de la SNCF ou grâce aux emails, notamment de la Poste, où l'on devait auparavant acheter des timbres et attendre très longtemps. Plus besoin de pointer par lettre pour être présent et être indemnisé par Pôle emploi. Plus la peine d'envoyer des factures ou de passer à sa banque. Internet a simplifié nos vies. Il les a également accélérées. Le consommateur y gagne, cela est souvent vrai. Et lorsque ça marche, Internet nous fait donc gagner beaucoup de temps et souvent gagner aussi de l'argent. C'est lorsque les problèmes arrivent que tout se complique et que ça devient même parfois très cher. Le consommateur qui était roi se découvre nu, esclave et parfois vulnérable et même arnaqué. Les consommateurs sont démunis, les frais bancaires exagérés, les services après-vente surfacturés et les délais d'attente s'allongent. L'Internet est une aubaine quand tout va bien. Il devient kafkaïen ou orwellien quand il se détraque. Tel est le sujet de cette émission ce soir, les droits des consommateurs dans la jungle d'Internet. Pour en débattre, pour en discuter, nous sommes avec Vincent Caucase, journaliste à Libération. Rebonsoir.
Bonsoir.
Et Maxime Chipoy, porte-parole de meilleurbanque.com. Rebonsoir également.
Rebonsoir.
Alors avant d'entrer dans des détails, et ils sont nombreux et comme on le sait, le diable se cache dans les détails, on peut peut-être commencer par poser le cadre un peu général de ce sujet, à savoir d'abord tout simplement le cadre légal qui est complexe, souvent en retard et souvent français, alors même que la plupart des problèmes que les consommateurs français rencontrent sont liés à des sociétés qui, elles, ne sont plus hébergées ou pas hébergées en France. Maxime Chipoy, peut-être pour ce débat général.
Effectivement, traditionnellement, quand on avait une relation avec un prestataire économique, enfin dans un domaine de consommation, c'était un prestataire national. Avec Internet, on en est loin et on a une double fragmentation puisqu'on a à la fois des réglementations qui dépendent du secteur. La réglementation du secteur financier n'est pas tout à fait la même que celui de la téléphonie, par exemple. Et en plus, avec Internet, évidemment, on a des prestataires qui sont de plus en plus absents du territoire national, qui sont pas forcément en France. Et donc, les lois françaises ne s'appliquent pas forcément, et ce qui contribue à l'aspect kafkaïen que vous décriviez.
Vincent Coucaz.
Au-delà de la difficulté de savoir qui saisir, etc., c'est aussi la question des moyens sur tout ce qui est arnaque en ligne. Oui. On sait que nous, journalistes, dès qu'on contacte la répression des fraudes, par exemple, l'organe chargé de suivre un petit peu ces dossiers, ils nous disent on est au courant, on sait que ça existe, mais en off, tout simplement, on n'a pas forcément les moyens de traiter tous les dossiers. Par exemple, nous, on a été saisi à Libération de questions sur la publicité déguisée, la publicité trompeuse en ligne. Et ça, très souvent, il y a des dossiers qui sont très nombreux, mais les moyens ne suivent pas pour tous les instruire.
Alors, une régulation justement éclatée entre la CNIL, l'autorité de la concurrence, la répression des fraudes, de nombreuses autres structures selon les cas. Parfois, ça peut être le CSA, parfois ça peut être l'ARCEP, etc., etc., qui ont toutes peu de moyens finalement par rapport à la démultiplication des problèmes et qui en plus ont des procédures très longues. Et lorsque les procédures arrivent à leur terme, les sociétés ont déjà changé. Elles ont corrigé les problèmes ou elles ne sont plus en France. Bref, très difficile de suivre à la vitesse d'Internet, tout simplement.
Oui, effectivement. Déjà, les moyens des autorités de contrôle n'ont pas forcément suivi. Par exemple, la DGCCRF perd des hommes et des ressources du budget, des finances, qui dépend du ministère de l'économie, effectivement, perd des moyens depuis des années et ça s'est pas amélioré. Et en plus, les filières se sont complexifiées. Par exemple, si vous prenez les fraudes à la carte bancaire, qui sont quand même un gros facteur de plainte des consommateurs. Il y a quelques années, c'était un petit hacker dans son coin qui arrivait à récupérer des numéros de carte bancaire et les utilisait lui-même avec une fausse carte bancaire. Aujourd'hui, c'est des hackers qui...
Professionnels, qui récupèrent
100 000 codes de carte bancaire en même temps, qui les revendent en gros à des sous-traitants à l'autre bout du monde,
qui vont eux-mêmes les
revendre à coup de bitcoin dans le darknet pour aller vite. Donc ça s'est beaucoup complexifié, ça s'est internationalisé. Il n'y a pas toujours les accords internationaux pour permettre aux autorités françaises de faire le boulot correctement.
Vincent ?
Non, mais là, tout simplement, on voit bien les moyens d'enquête qu'il faudrait mettre à disposition des différents organes qui sont chargés de suivre tout ça. Et j'ignorais que la répression des fraudes perdait des hommes, mais si c'est le cas, c'est effectivement...
La CNIL aussi, ou même quand elle n'en perd pas, face à un nombre de réclamations, effectivement, elle est complètement asphyxiée. Ces structures ont du mal à suivre. Alors une des possibilités, toujours pour cette introduction un peu générale, une des possibilités qui avait été proposée, c'est ce qu'on appelle les class actions. De quoi s'agit-il et où en est-on quand on s'aperçoit qu'en fait, cette proposition qui vient, je crois, de la loi Benoît Hamon, s'est retrouvée un peu en fait inefficace en France?
Alors effectivement, ça a été longtemps un serpent de mer. Le problème des sujets des litiges de consommation, c'est qu'en fait, individuellement, vous perdez 5-10 euros. Donc ça, c'est toujours désagréable, mais ça fait pas très mal. Mais la personne qui a organisé cette arnaque, lui, à force de faire 100 000 fois 10 euros, par exemple, récupère plusieurs millions. Donc le litige, le préjudice collectif est énorme.
Et donc l'idée... Et en même temps, si on porte plainte, ça coûte très cher. Enfin, il faut des avocats, etc. Pour 20 euros ou même 100 euros.
Donc en général, à titre individuel, les gens laissent tomber, ils vont pas plus loin. Sauf que c'est une incitation à faire de l'arnaque et de la fraude. Donc l'idée, c'était de pouvoir regrouper toute la collectivité des consommateurs qui a subi le préjudice et de ne faire qu'une seule action en justice. Donc ça, effectivement, ça a vu le jour en France en 2014. Et malheureusement, la manière dont ça a été fait qu'aujourd'hui, c'est un échec, je pense qu'on peut le
Pourquoi
dire.
Pourquoi? Peut-on rentrer un petit peu dans le détail? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans cette loi que François Hollande avait proposée, que Benoît Hamon a mis en œuvre? Elle est trop complexe? Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, elle est trop limitée. En fait, pendant toutes les discussions sur la class action, on utilise d'ailleurs ce terme qui est un terme américain. La grande frayeur des politiques est évidemment...
Les actions de groupe, effectivement, en français.
La grande frayeur des politiques et surtout des industriels, c'était qu'on ait une action à l'américaine où non seulement on pouvait corriger les préjudices, donc j'ai perdu 10 euros, je me fais rembourser 10 euros, mais aussi le préjudice moral, qui lui est beaucoup plus difficile à chiffrer et beaucoup plus important. C'est pour ça qu'aux États-Unis, on a souvent des milliards d'euros de...
Mais qui en jurisprudence aux États-Unis fait des malheurs parfois.
Ouais. Il y a eu des excès aux États-Unis, c'est sûr, mais en attendant, on a limité cette class action.
Faute d'excès, on a une loi qui ne marche pas, quoi.
On a une loi qui n'est pas attractive, c'est ça?
Déjà, voilà, en termes de montant, c'est pas très dissuasif. Et puis l'autre problème, c'est que aujourd'hui ne peuvent entamer une class action que des associations de consommateurs agréées. Il y a 15 associations de consommateurs en France aujourd'hui.
Comme l'UFC que choisir, 30 millions de consommateurs ou 50 millions,
la CLCV, 60
maintenant.
La CLCV, etc. En fait, il y a 15 associations de consommateurs, mais en réalité, la plupart des associations de consommateurs ont des moyens très très limités. Et il faut savoir qu'une procédure de class action, ça prend au moins 4 ans. Donc ça veut dire que pendant 4 ans, une association de consommateurs va devoir porter toute seule tout un ensemble de procédures ultra complexes, et que si jamais elle perd, ce qui est déjà arrivé, c'est arrivé deux fois là sur les 12 actions en cours, ça peut lui faire un préjudice financier important.
Maxime Chipoy, je rappelle d'ailleurs que vous venez de l'UFC Que Choisir, vous avez été pendant quelques années. Vincent Coca, sur ces class action, ces actions.
Non, mais on voit bien comment on a essayé de réduire le champ. Moi, j'ai le souvenir aux États-Unis de class action qui débordaient même le simple cadre des arnaques et même des arnaques en ligne. C'était des salariés de Walmart qui attaquaient leur employeur pour des questions d'égalité salariale. Alors, je crois que c'était pas allé au bout pour diverses raisons, mais on voit que ça. Aujourd'hui, ça serait quelque chose qui aurait du sens en France. Et effectivement, en tant que consommateur, en tant que même citoyen, on a du mal à voir qu'est-ce qui freine, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas aujourd'hui à mettre en place un système comme ça en France.
Donc en fait, le serpent de mer, pour prendre une image, c'est une montagne qui a accouché d'une souris, ça marche pas. Enfin, ça fait beaucoup d'animaux qui n'ont pas, qui ne sont pas arrivés.
Ça ne trouve pas leur chemin.
Ça marche pas, c'est compliqué. Et puis, par exemple, il y a eu quelques années le cartel des lessiviers où en fait les gens ont payé trop cher leurs lessives pendant des années. Aujourd'hui, si jamais vous voulez vous faire indemniser du cartel des lessiviers, si jamais il y avait une class action là-dessus, il aurait fallu garder toutes ces factures de supermarché où vous aviez de la lessive dans la note, quoi.
Vincent Coquette.
Et on voit bien sur les questions de données personnelles aussi, quand on a un litige avec Facebook, avec Google aujourd'hui sur des questions de protection de la vie privée, tout seul, personne ne se sent, j'imagine, d'aller face à l'armée d'avocats de Facebook ou Google. Le jour où tous les utilisateurs de Facebook en France décident collectivement de dire qu'ils ont envie qu'on protège un petit peu mieux leurs données personnelles et de savoir ce qu'on en fait, je pense qu'effectivement là, Facebook et Google auront une incitation beaucoup plus forte à faire respecter la loi, tout simplement.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Il est 19h23 en direct sur France Culture, vous êtes dans Soft Power. Alors on va s'intéresser ce soir au droit de la consommation et aux consommateurs qui sont très démunis, notamment dans les évolutions de l'économie numérique. Et on a pris un certain nombre de sujets, on ne peut pas tout traiter, mais on aimerait s'intéresser ce soir aux questions liées au transport, aux abonnements. On aimerait évoquer la question des banques et tout ce qui tourne autour des frais bancaires, des évolutions notamment liées au numérique. On évoquera les notations, les systèmes de notation en ligne. Et pour commencer, j'aimerais qu'on parle des arnaques en ligne. C'est le sujet peut-être qui nous préoccupe le plus et qui est le plus difficile à corriger, qu'elle concerne d'ailleurs ces arnaques en ligne, le jeu vidéo, les arnaques qui touchent les réseaux sociaux, l'internet, ou pour commencer avec vous Maxime Chipoy, le téléphone, pratique du spoofing, les possibilités de faire interdire son numéro et qu'on ne puisse pas être démarché grâce à Bloctel, ou encore la question tout simplement du démarchage, plus globalement du démarchage en ligne. Quels sont les problèmes et quelles sont les solutions, notamment Bloctel lancé en 2016?
Alors, le démarchage téléphonique, c'est un problème presque de société. Il y a eu beaucoup...
Qui précède un peu Internet, on peut
le
dire.
Oui, qui précède. C'est du en ligne en tant que tel, mais ça précède. Hein. Ça vient pas avec Internet. Ça s'est quand même décuplé avec les nouvelles technologies, puisque aujourd'hui, vous avez des systèmes qui permettent de faire des dizaines, des milliers d'appels en même temps. Et précédemment, la grande mode était de faire des appels avec des numéros masqués. Bon, les gens ont vite compris que très souvent, c'était pas forcément des appels sollicités. Et cette pratique a été interdite également dans la loi Hamon. Sauf que les professionnels du démarchage ont trouvé une nouvelle technique. Donc c'est la technique qu'on appelle le spoofing, qui consiste tout simplement à prendre un numéro au hasard, en général un 06 comme on dit, qui peut appartenir à quelqu'un, et utiliser ce 06 ou ce 01 pour appeler les gens à la place. Comme les gens voient que ce n'est pas un appel anonyme, ils ont un peu plus confiance, ils décrochent plus, et là ils voient que c'est un démarcheur. Et c'est situé aujourd'hui dans une zone grise qui fait que aujourd'hui on ne peut pas condamner les gens qui utilisent le spoofing et donc qui usurpent les numéros de téléphone de quelqu'un d'autre pour appeler des dizaines de milliers de personnes.
Sur ça, Vincent.
Ouais, non, quand tu dis que c'est un problème de société, je te rejoins. Moi, depuis plusieurs mois, on travaille beaucoup sur Facebook pour poursuivre le mouvement des gilets jaunes, comment ils se structurent, etc. Et il y a eu plusieurs fois, donc c'est des images ou des vidéos partagées des dizaines de milliers de fois, qui disaient qu'ils comprenaient pas pourquoi les pouvoirs publics ne s'emparaient pas de ce problème des appels abusifs. Et on sentait que c'est pas évidemment pas une revendication principale des gilets jaunes, mais on voyait à cet endroit-là que c'était un sujet et que les gens, c'était ça faisait partie de ces petites exaspérations, mais qui étaient visibles à ce moment-là.
Et qui débouchent sur des micro-politiques, comme on aime les appeler dans cette émission, on l'a fait plusieurs fois, c'est-à-dire au fond des petites solutions qui sont finalement pas coûteuses pour le gouvernement, qui peuvent passer dans des lois assez facilement et qui permettent souvent d'éviter tout un tas de formes de harcèlement en réalité téléphonique, ou très souvent lorsque votre numéro a traîné un peu trop depuis quelques temps, ou alors lorsque vous prenez un nouveau numéro mais qu'il appartient à quelqu'un qui avait lui-même beaucoup de problèmes, vous avez des appels 5-10 fois par jour qui vous viennent encore une fois de pays assez lointains et où on vous propose alors tout un tas de solutions, de choses qui pourrait vous permettre de gagner de l'argent, mais qui en réalité vont vous en faire perdre. Alors l'une des possibilités pour éviter ça, c'est le service Bloctel, lancé en 2016, mais dont on peut penser, au vu de son fonctionnement, qu'il a en partie échoué, Maxime.
Oui, effectivement, Bloctel était lui-même la mise à jour d'un service précédent qui s'appelait Opostel, je crois. Non, quelque chose comme ça, mais en tout cas, il marchait pas très bien. Et donc, l'idée, c'était que les entreprises s'inscrivent et s'engagent à ne pas appeler toutes les personnes qui s'inscrivaient sur les listes Bloctel. Donc, on a 3,7 millions de personnes qui sont aujourd'hui inscrites sur ces listes-là, sauf qu'on a seulement 700 entreprises françaises qui sont inscrites. En général, c'est les plus grandes qui cherchent à faire bon effet, mais c'est aussi eux qui ont le moins besoin de démarcher. Évidemment, toutes les autres entreprises qui n'ont pas été signataires ne sont absolument pas engagées par ce système-là.
Donc, c'est un système pas coercitif.
Ça repose sur ce qu'on appelle l'opt-in, c'est-à-dire que c'est au consommateur de faire le geste de s'inscrire. Alors qu'on sait très bien que dans d'autres...
Donc il faudrait inverser la logique finalement ?
Alors effectivement, la solution est assez simple. En général, le démarchage est plus gênant qu'autre chose pour la plupart des Français. On pourrait très bien inverser la logique, faire ce qu'on appelle de l'opt-out. C'est-à-dire que les consommateurs qui voudraient démarcher le signaleraient auprès d'une instance.
Et ça se bousculerait le portillon.
Alors on rigole, mais ça se fait dans beaucoup de pays européens. Par exemple au Portugal, ça se fait depuis quelques années et ça marche très très bien.
Mais si les sociétés de toute façon ne sont pas listés dans ce type de site, de toute façon, elles ne le feront pas. Donc, pour aller vite,
alors après,
c'est
on
pas
peut sortir de la logique de liste aussi. On peut tout simplement, je pense un peu plus au démarchage physique. On pourrait très bien interdire le démarchage auprès de certaines catégories de population, par exemple.
Est-ce que c'est pas aux opérateurs de téléphonie mobile ou de téléphonie fixe à peut-être réguler aussi elles-mêmes pour éviter que ceux qui ont un abonnement chez eux soient constamment
Effectivement, c'est par les canaux des opérateurs que ça passe. Après, la difficulté, c'est que comment un opérateur peut distinguer un vrai appel d'un appel de démarchage. Alors, si on se rend compte que un robot utilise un 06 précis pour appeler 10 000 personnes en continu, là, effectivement, ça sera repéré. Mais je pense qu'il serait assez facile de trouver une faille et de changer toutes les 5 secondes de numéro pour passer 10 coups de fil en même temps.
Comment on peut éviter ça ? Est-ce qu'il faut déjà prendre l'habitude, chose qu'on oublie souvent, de ne pas mettre son téléphone dans tout un tas de documents qu'on nous demande lorsque c'est pas réellement indispensable, notamment sur Internet ? C'est une première solution pour éviter que votre numéro soit ensuite revendu ou utilisé pour d'autres causes, par exemple ?
Alors effectivement, le geste de base, c'est effectivement de ne pas mettre son numéro de téléphone dès lors qu'il est pas obligatoire dans un formulaire, ça c'est clair. Après, malheureusement, je vois pas d'autre solution que de décrocher qu'au numéro qu'on connaît. À part ça, je vois pas, d'attendre que la personne en question laisse un message pour le rappeler.
Lorsqu'on reçoit des SMS, notamment non sollicités, il y a des outils, notamment le fameux stop, où on renvoie un stop et où parfois ça ne marche pas. D'ailleurs, on vous dit le numéro n'est pas accessible. Normalement, c'est obligatoire lorsqu'on reçoit des SMS de pouvoir être supprimé de cette liste.
Ouais, c'est obligatoire, c'est pas toujours fait malheureusement.
Mais ça me fait presque penser à une époque où on conseillait aux gens, quand ils s'inscrivaient sur n'importe quel site en ligne, d'utiliser un mail qu'on appelait un mail poubelle, c'est-à-dire un mail où tout partait. Maintenant, aujourd'hui, où des cartes SIM coûtent très peu cher, j'en viens parfois à me demander effectivement si ça vaudrait pas le coup d'avoir une carte SIM un petit peu justement poubelle qui ne me permettrait que de valider les inscriptions à un certain nombre de
services. Et de garder l'idée d'un email en plus de son email personnel, qu'on change par exemple tous les 6 mois ou tous les ans, qui ne sert pas à grand chose, mais où on peut quand même... Parce que souvent, le problème, c'est qu'il faut donner un numéro, il faut donner un email, sinon on n'a pas droit aux services.
Est-ce qu'on a quand même le droit de dire qu'il faut souvent donner un email ?
On a le droit de tout dire ici.
On peut souvent donner un email, et en l'occurrence, moi j'en donne un qui est devenu une poubelle sans même que ce soit de ma propre volonté. Je pense qu'on a tous ici un jour une adresse email qui date de 2007,
qui est complètement spammée.
Donc du coup, en l'occurrence, on peut s'en servir comme ça. Et il faut quand même dire qu'il est souvent obligatoire de donner une adresse email. Il est très peu souvent obligatoire de donner un numéro de téléphone quand on s'inscrit. Et en général, il faut bien faire attention. On vous fait croire que c'est obligatoire pour compléter votre compte. Et quand vous allez regarder soit l'astérisque, soit en dessous, vous verrez que dans les choses obligatoires, en général, il y a votre nom, votre prénom, votre mail. Bien souvent, on n'est même pas obligé de mettre sa vraie date de naissance. Et il est conseillé d'ailleurs de ne pas la mettre. Ça fait partie des petites choses de la vie sur lesquelles il faut qu'on soit pédago et qu'on finit parfois par apprendre tout seul. La date de naissance et le numéro de téléphone sont rarement obligatoires, à part pour des services qui concernent directement ça. Typiquement WhatsApp, vous ne pouvez pas vous mettre sur WhatsApp si vous ne donnez pas votre vrai numéro de téléphone, puisque c'est directement relié à ça. Mais il faut quand même le dire, quoi.
Maxime Chipoy, sur toujours ces arnaques en ligne, on a parlé du téléphone, quid d'Internet, où là, elle se multiplie, recrudescence des fausses annonces, des arnaques en réponse à des dépôts d'annonces, qu'elles viennent du Bon Coin ou d'autres structures.
Ouais. Alors effectivement, Internet, encore plus que le téléphone, c'est la loi de la jungle. Il faut vraiment être très très vigilant. Et parmi les sites qui sont extrêmement touchés, on a tous les sites de petites annonces, où non seulement vous avez un gros pourcentage des annonces qui peuvent être frauduleuses. Alors là, comme d'habitude, le conseil, c'est attention aux annonces trop alléchantes qui sont souvent fausses. Mais ce qui est plus étonnant, c'est que même quand vous déposez des offres, vous avez, je sais pas, une télé à vendre, on peut vous contacter et ce contact peut être un faux qui va essayer de vous arnaquer. Alors après, comment essayer de
quel
voir...
conseil donner sur ces cas-là?
Alors il y a une chose assez simple, c'est que aujourd'hui la plupart de ces annonces passent par des services de paiement instantané, de paiement automatique, de Mandacash par exemple. Pour pas donner de marque, par exemple, si on vous parle de Western Union, MoneyGram ou de choses comme ça, en général, c'est un peu louche et très souvent, on va essayer d'obtenir beaucoup de données personnelles de votre part. C'est-à-dire que, vous voulez prendre un logement en location, on va vous dire très bien, mais pour étudier votre dossier, dites-nous d'abord nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, etc., etc. Et pour réserver ce logement, je ne suis pas en France en ce moment. Il faudrait que vous m'envoyiez 100 € par MoneyGram à tel numéro. Bon, ça, vous pouvez être sûr que c'est une arnaque. Et c'est ce genre de schéma qu'on retrouve très très souvent dans les arnaques aux petites annonces.
Autre nouveauté, parce que les arnaqueurs ont toujours de nouvelles idées, c'est les arnaques qui passent aujourd'hui par les réseaux sociaux. Et là, c'est assez récent finalement.
Oui, c'est assez récent. Les réseaux sociaux ont eu un peu de tranquillité, mais maintenant ça arrive. Et notamment, ça a été le cas de WhatsApp, qui subit régulièrement les utilisateurs subissent des fausses
sollicitations
et en fait ça passe par des faux comptes d'entreprises, par exemple Air France ou Ikea, qui vous contactent pour vous dire qu'ils organisent un jeu concours en ce moment et que pour être qualifié pour le tirage au sort, vous devez envoyer encore une fois beaucoup de données personnelles et transmettre cette annonce à une vingtaine de personnes. Donc évidemment, ça donne un effet viral assez important. Et même s'il n'y a pas forcément de risque de perte d'argent, l'objectif ici des arnaqueurs, des fraudeurs, c'est de récupérer vos données personnelles et de les revendre derrière. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte que les données personnelles ont une valeur et qu'elles sont revendues un peu partout, en gros, sur Internet, pour être utilisées par des démarcheurs derrière.
Vincent Cocaz.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est que je pense que les arnaques par mail qui ont été un peu l'apanage d'Internet pendant les débuts d'Internet pendant des années avec les fameux scams, on appelait ça des scams à l'époque, on n'utilise plus tellement ce terme aujourd'hui. Maintenant, les arnaqueurs investissent des nouvelles plateformes où les gens vont pas avoir les mêmes repères. C'est-à-dire que maintenant, quand on reçoit un mail qui nous dit qu'un prince africain veut nous léguer 30 millions d'euros, bon, il y a les différents signaux qui s'allument.
Prince légué 30 millions d'euros, voilà, ça fait beaucoup. Voilà.
Et même le fait que ça soit par mail aujourd'hui, je pense qu'il y a une méfiance vis-à-vis du mail qu'il n'y avait pas il y a une quinzaine d'années. Mais WhatsApp, c'est le cercle familial, c'est le cercle amical. Et C'est utilisé par des gens qui ont un certain âge, qui sont soit très jeunes, soit très vieux, parce que encore une fois, il y a des familles entières qui utilisent WhatsApp pour rester. Donc, il y a un côté affectif et un côté proximité avec WhatsApp qui fait que qui est vecteur de l'arnaque. Et donc, je pense qu'on en reparlera peut-être, mais sur l'éducation à ces outils, c'est-à-dire qu'il faut aussi chacun s'interroger sur comment on l'utilise et accompagner les gens qui sont pas forcément aussi à l'aise que nous sur ces outils, que ce soit les gens plus âgés ou au contraire les gens plus jeunes.
Alors les gens plus âgés, les gens plus jeunes, on va s'intéresser à ces deux catégories de population. Sur les gens plus âgés, Maxime Chipoy, là ils sont vraiment les victimes constamment, que ce soit par téléphone, que ce soit par internet, de tout un tas de propositions qu'ils sont peut-être moins préparés à identifier parce que le web est un peu récent pour eux, enfin comme pour tout le monde, mais ils n'ont pas grandi avec et donc c'est quand même le public le plus en danger entre guillemets de ces arnaques.
Alors les personnes âgées, les personnes vieillissantes, c'est vraiment la cible numéro un des arnaqueurs et c'est la population en danger.
Vulnérable, oui.
Ouais, vulnérable parce qu'ils cumulent plusieurs avantages pour les arnaqueurs. Déjà, ils sont très souvent présents à leur domicile, ils répondent souvent au téléphone et puis ils n'ont pas l'éducation, les codes de l'internet pour savoir comment réagir. Donc c'est vraiment très très problématique dans les statistiques. Les statistiques de fraude de la DGCCRF, le démarchage, et notamment auprès des personnes âgées, fait partie des problèmes numéro un. Et c'est pas forcément que des petites entreprises. Vous avez beaucoup, notamment avec l'ouverture du marché de l'énergie à la concurrence, beaucoup de grandes entreprises ex-fleurons nationaux qui vont même démarcher, là encore je ne cite pas de nom, mais qui vont en fait se présenter au domicile des gens, dire par exemple on vient pour contrôler si votre compteur Linky marche bien, et on vous fait signer un papier comme quoi on a bien contrôlé le compteur. Sauf que ce n'est pas ça, c'est un papier pour vous faire changer d'opérateur d'énergie.
Il y a la même chose un peu avec la fibre aussi, il y a eu un peu les mêmes types de problèmes sur l'arrivée de la fibre avec... Là encore, des entreprises qu'on ne nommera pas, mais qui arrivaient en disant « Ah, mais il vous faut la fibre, on est les seuls à pouvoir vous la... on est les seules habilités dans votre immeuble à pouvoir vous la donner, et il vous la faut, alors qu'en réalité... »
Alors, personnes âgées, mais aussi personnes jeunes, et là, ça concerne notamment la question des jeux vidéo, avec ce qu'on appelle les loot boxes, c'est comme ça qu'on dit ?
C'est comme ça qu'on dit.
Maxime.
Ouais, effectivement, les loot boxes. Donc, c'est une pratique du monde du jeu vidéo. En fait, le contexte est assez précis. C'est que les vendeurs de jeux vidéo cherchent à faire baisser le prix de vente de leurs jeux vidéo, et donc ils doivent trouver une nouvelle source de revenus. Et cette nouvelle source de revenus, ils l'ont trouvée avec ces loot boxes. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? C'est en fait dans les jeux vidéo, si vous voulez progresser, faire progresser votre personnage. Vous avez deux manières, soit vous attendez gentiment que votre personnage gagne des points et donc vous pouvez lui acheter des armures, des nouvelles capacités, etc. Soit vous voulez faire la méthode rapide, vous payez pour avoir des
bonus,
options en plus, des bonus en plus. Sauf que le côté pervers de ces loot boxes, c'est que vous n'êtes pas sûr de ce que vous allez avoir à la fin, puisqu'en fait vous payez pour une pochette surprise et que vous pouvez avoir des super armures, des super épées ou des choses totalement pitoyables qui vont vous forcer entre guillemets à acheter encore une nouvelle loot box pour avoir ce que vous vouliez à la fin.
Et là encore, c'est très très difficile de savoir, ni par ailleurs de forcément s'en échapper, sans parler des jeux vidéo qui vous proposent des formes d'abonnement dans lesquelles vous allez rentrer, alors tout à fait évidemment, sans doute légalement, mais en même temps, c'est fait avec la carte bancaire de vos parents, et puis tout à coup, il y a un abonnement que vous n'aviez pas tout à fait anticipé, de 10, 15, 20 euros par mois, encore une fois, des petites sommes en théorie, mais si c'est 10 euros chaque mois, ça fait plusieurs centaines d'euros à la fin de l'année, Vincent Caucase.
Non, mais c'est simplement sur les lootbox. Ce qui est intéressant aussi, c'est le côté aléatoire qui a conduit notamment la Belgique est en train de réfléchir à légiférer dessus en considérant que du coup, c'est assimilable à un jeu d'argent, un jeu de hasard. Mmh. Parce qu'à partir du moment où on paye pour un résultat qui est incertain, on peut considérer que c'est un jeu de hasard.
Et donc du coup, ça c'est mieux régulé,
plus,
ouais.
Voilà, beaucoup plus encadré, beaucoup mieux régulé, interdit pour des publics de moins de 18 ans, si ça venait à être le cas en France. Voilà, j'ai l'impression que cette discussion, pour l'instant, n'a pas encore eu lieu en France. Ça peut paraître éloigné pour certains, mais c'est des sommes en fait en jeu qui sont colossales.
Ouais,
on parle de loot box, mais pour vous donner un exemple qui parlera peut-être à certains, c'est par exemple dans le jeu FIFA, un jeu de foot, pour avoir de meilleurs joueurs, on peut acheter des pochettes surprises, et dans la pochette surprise, bah, il y a soit Cristiano Ronaldo qui est le meilleur joueur du jeu, soit un défenseur du FC Sochaux.
La verrier contre Sochaux.
Voilà. On ne sait pas quel joueur on va obtenir, ce qui pousse évidemment à acheter plusieurs pochettes surprises jusqu'à ce qu'on ait le joueur qu'on
On a parlé aussi dans cette émission auparavant, mais on peut y revenir, la question des vidéos payantes. Alors là, c'est encore une arnaque encore plus claire. Vous regardez, vous êtes sur Internet, vous baladez sur YouTube ou autre, et on vous propose de voir une vidéo qui est généralement avec un titre très explosif. Alain Juppé déclare pourquoi il déteste Nicolas Sarkozy. Donc vous vous mettez à regarder cette vidéo qui d'ailleurs généralement dure 30 minutes. Et en fait, il se passe rien. Alain Juppé ne va rien déclarer, sauf que vous ne l'avez pas vu. À un petit endroit de la page, on vous dit que cette vidéo est payante et que concrètement, ça coûte 1 ou 2 euros par minute. Et pendant 20 minutes, vous allez regarder quelque chose qui n'arrivera jamais puisque le titre était faux. Et là, c'est une arnaque très très précise, même si en réalité, elle est d'une certaine manière légale parce que ça a été présenté à un endroit écrit en très petit, souvent d'ailleurs à contre-jour. Vous ne voyez pas exactement l'information. Avec le problème, c'est que la somme va vous être prélevée directement par Orange ou par Bouygues sur votre abonnement d'abonnement d'accès à Internet autour de nouveaux capacités de paiement qui ont été imaginées par ces structures.
Oui, effectivement, c'est ce qu'on appelle les micro-paiements, qui sont des paiements pour lesquels vous n'avez pas besoin de sortir votre carte bancaire. Et ça, c'est
un peu la voie royale. C'est la même chose que les jeux vidéo, en fait, c'est le même problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessairement de besoin de reconfirmer qu'on est en train d'acheter quelque chose.
C'est ça, effectivement. En général, sur les jeux vidéo, vous avez déjà inscrit votre numéro de carte bancaire sur le store le store en question sur lequel vous avez acheté le jeu, et on vous redemande pas votre carte derrière. Et c'est encore plus pernicieux sur les micro-paiements, puisque vous ne verrez ça qu'à la fin sur votre facture.
Alors là, la solution, c'est lorsque on est sur Orange ou sur Bouygues ou sur SFR, etc., c'est de dévalider l'option qui est proposée typique. Alors elles ont différents noms, mais c'est Orange Plus ou je ne sais pas comment elle s'appelle selon les sociétés, qui vous autorise à ces prélèvements, enfin ces paiements supplémentaires, mais qui sont souvent une option automatique. Il faut donc se désinscrire avant de pouvoir l'avoir.
Ouais, effectivement, il y a cette option-là, et puis il y a l'autre manière qui est, vous pouvez aussi mettre des limites de facture chez les grands opérateurs, et comme ça, vous serez prévenu qu'à partir de, je sais pas, 30 ou 40 euros, il y a quelque chose qui est en train de se passer et vous recevrez l'information nécessaire.
Une alerte, oui, parce que sinon, on ne le voit pas. Alors, autre question qu'on voudrait traiter ce soir, il y a d'innombrables problèmes dans ces dossiers, on peut pas tout évoquer, mais on essaye de le faire régulièrement dans cette émission. Un tout autre sujet maintenant, et peut-être davantage avec vous Vincent Cocaz, parce que vous travaillez spécifiquement là-dessus, la question des systèmes de notation en ligne. Alors là, c'est un autre domaine assez complexe puisque il concerne à la fois les consommateurs mais aussi les salariés de ces entreprises. Pour aller vite, vous utilisez un Uber, Airbnb, vous êtes sur Booking, sur Hotel.com, sur TripAdvisor, vous notez les services, vous notez à travers des applications par exemple de style comme Yuka, etc. Et là, on a tout un tas d'effets que ça va produire que vous n'anticipez pas forcément, Vincent.
Alors, sur les salariés, nous à Libération, avec mon collègue Ismaël Alissat, on s'était dit justement effectivement que souvent à la fin d'un coup de fil que vous passez, pour rester sur les opérateurs téléphoniques typiquement, vous avez un problème avec votre box, vous appelez Orange, le technicien essaie de résoudre votre problème, et à la fin, vous devez lui laisser une note de 0 à 9, de 0 à 10, de 1 à 5, ça change en fonction des opérateurs et des cas.
1, 2, 3, 4 étoiles
voilà.
aussi.
Ouais. Et on ne sait jamais forcément trop ce qu'on note, pourquoi on le note, etc.
En général, on vous dit ce service.
Voilà, on vous dit, vous allez noter le service. Ouais. C'est le cas aussi quand vous faites, par exemple, livrer une machine à laver par Darty ou une autre marque. Et en fait, on s'est rendu compte en creusant un petit peu que c'était pas tant le service qu'on notait, mais le salarié lui-même, et qu'il y avait un enjeu financier direct pour lui, dans le sens où il avait une part de son salaire assez importante, qui pouvait aller entre 10, 15, 20%, qui dépendait de cette note, avec en plus des barèmes de notation qui étaient calqués sur ce qui se fait plutôt aux États-Unis. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, quand un service, on estime qu'un service est bon, on va avoir tendance à mettre 20 sur 20, 100%, 10 sur 10, 5 sur 5. En France, on n'a pas forcément cette culture-là. C'est-à-dire que moi, j'avais demandé une fois à un livreur qui m'avait livré une machine à laver, en l'occurrence, il m'avait demandé de lui mettre une bonne note. Je lui dis, ok, pas de problème, je vous mets 9 14. Sur 10. Je vous mets 9 sur 10. 9 sur 10, ça me paraît être une très bonne note. Il dit, non, si vous mettez 9 sur 10, je perds ma prime. Et comment ça, vous perdez votre prime? En fait, il ne touchait sa prime que s'il avait 9,4 sur 10. Et là, il était autour de 9,1 ou 2. Ah. Donc si je lui mettais 9, je lui faisais baisser sa moyenne.
Oui, sur Uber ou Airbnb, c'est pareil. C'est qu'il faut très vite.
Uber, c'est, on estime 7. Qu'en dessous de 4,4 sur 5, ou donc, 7 sur 10, voilà, c'est à peu près ça, 7, voire même un peu plus, le chauffeur peut être désactivé. Donc là, en plus, le chauffeur, alors c'est comme ça que ça s'appelle.
Il perd son job.
Voilà, exactement. C'est-à-dire que vu qu'il n'est pas salarié, la désactivation, c'est simplement l'application qui décide de ne plus travailler.
Il perd son job.
Exactement.
Il est désactivé. Retenez l'expression.
Voir pour ça des très bons épisodes de Black
Mirror.
Sinon,
vous désactive. Et Maxime Chipoy aussi. Soyez sage. Sinon, vous désactive dans cette émission.
Et si on veut revenir sur le sujet des arnaques, parce que c'est aussi le cas avec la notation, c'est le sujet des faux avis. Il y a eu un article de Forbes au moment du Black Friday. Black Friday, c'est cette journée avec des promotions extraordinaires juste avant Noël et les fêtes de fin d'année. Et l'article de Forbes était titré « Ne faites plus confiance aux notes et aux avis en ligne sur les sites de commerce ». Tout simplement parce que la part de faux est à la fois tellement importante et tellement difficile à chiffrer qu'en fait, l'avis et la note ne veulent plus dire grand-chose.
Sur TripAdvisor en particulier aussi, où beaucoup d'amis, des restaurateurs peuvent mettre des notes.
Non, puis il y a eu ce merveilleux cas d'école démonstration que je pense qu'on a beaucoup vu avec ce journaliste qui a fait croire, qui a inventé totalement un restaurant qui n'existait pas et qui a réussi à en faire le restaurant le mieux noté de Londres pendant quasiment un mois alors que ce restaurant n'existait pas. Mais au-delà des faux avis, il y a la question du biais, ça c'est aussi des très beaux articles de sociologie qui nous montrent que quand les commentaires sont tous positifs, ça va être difficile d'en mettre un autre qu'un positif.
On est poussé à en mettre un positif. L'effet boule de neige.
L'effet boule de neige, et inversement, quand on a énormément d'avis négatifs, on va avoir tendance à se dire « moi c'était pas mal, mais en même temps je comprends ce qui s'est passé ». Il y a ça, et puis évidemment, il y a aussi la question, quand on part, ne serait-ce que sur les avis comparatifs, mais là on va parler UCAS, qui est un peu encore différent, il y a toujours des biais qui sont liés parfois structurellement aux données auxquelles on se réfère.
Sur UCAS, Vincent, une remarque.
Là, c'est un cas intéressant où le retard des services publics à donner de l'information sur la nutrition, vous savez, ça fait des années qu'on parle d'un Nutri-Score qui serait obligatoire à mettre sur tous les paquets de biscuits, de céréales, qui n'a jamais été obligatoire. Là maintenant, on parle de 2021, mais uniquement dans les spots de pub. Et donc là, il y a des applications, il y a le secteur privé qui est arrivé avec des applications comme Yuka qui vous permettent, sur des cosmétiques ou des aliments principalement, d'avoir une note de mauvais, médiocre, bon, très bon, je crois. Mais là aussi, avec effectivement des biais sur, par exemple, Yuka a décidé que 30% de la note sur l'alimentaire serait liée à la présence ou l'absence d'addictifs. Ce qui n'est pas forcément la meilleure solution de noter un produit que vous achetez parce que c'est très différent sur les colorants, les conservateurs, enfin il y a des choses qui sont très différentes. Donc là on voit que c'est aussi le retard des pouvoirs publics, on en parlait sur d'autres sujets tout à l'heure, qui ont fait que ces applications sont arrivées.
Et puis en plus il faut aussi dire que du coup eux ils se basent Yuka sur ce qu'on appelle l'Open Food Facts, c'est cette base de données sur la nourriture qui est un commun, un peu comme Wikipédia l'est, avec évidemment tout un système comme sur Wikipédia de gestion par la communauté, des abus, etc. Mais mine de rien, vous, moi, Carrefour, et tous les gens qui vendent des produits qu'ensuite on va aller scanner peuvent être eux-mêmes des gens qui modèrent et qui participent. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que parfois, sur Yuka, vous pouvez regarder un truc qui vous dit médiocre, mais il y a un produit équivalent chez Carrefour qui est plutôt sympathique. Et en réalité, l'application en elle-même n'est pas fautive, mais son système même, puisqu'elle n'est pas garantie par aucun service d'État, est propre à créer parfois des biais qui sont inhérents tout simplement à la manière dont elle est conçue.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
19h49 en direct sur France Culture. Ce soir, on parle des solutions et aussi des problèmes, des arnaques sur Internet et sur les réseaux sociaux, ainsi que sur téléphonie mobile. Nous sommes avec Vincent Cocaz, journaliste à Libération, Maxime Chipoy, porte-parole de meilleurbanque.com. Ancien de l'UFC, que choisir? Alors, pour terminer cette émission, on va évoquer d'autres exemples. Parlons maintenant des banques, sujet que vous connaissez bien, Maxime Chipoy. Alors là, on est sur des évolutions récentes, notamment des choses qui ont changé. Alors, on connaît la question des frais bancaires multiples, y compris, qui ont été pas mal plafonnés, quand même pas mal contrôlés. Mais on voit tout un tas de nouveaux problèmes qui émergent.
Alors le plafonnement, en fait, une partie des frais d'incident bancaire, parce que c'est ça qui pose problème aujourd'hui. En fait, votre banque, quand vous n'avez pas de problème, elle vous coûte pas si cher que ça. Mais dès que vous avez le moindre problème, c'est là où ça commence à vous coûter très cher. Une partie des frais d'incident ont été plafonnés par la loi. Mais c'est pas le cas de tous les frais. Et en fait, le gouvernement, à la fin de l'année dernière, a un peu tordu le bras des banques pour qu'elles prennent un engagement de plafonnement des frais d'incident pour les plus fragiles. Donc c'est un plafonnement qui est de 25€ par mois, ce qui fait que donc au final, un fragile ne peut pas avoir plus de 300€ de frais bancaires par an, ce qui est en tant que tel, un gros progrès, puisque nous, on avait vu par le passé des factures de plusieurs milliers d'euros par an, juste pour les frais d'incident. Le problème, c'est que là encore, c'est un engagement.
Un peu artificiel,
d'une part. D'autre part, c'est limité aux populations fragiles, et les fragiles, ce sont les banquiers qui les définissent, à partir de tout un faisceau d'indices. Et puis surtout, ce plafonnement, il empêche de facturer sur les frais d'incident, en tout cas qui existe, mais il n'empêche pas de créer des nouveaux frais d'incident, par exemple. Donc c'est forcément une limite, et évidemment, nous, on regarde un peu toutes les plaquettes tarifaires pour voir si on n'a pas des nouveautés.
Le problème, c'est qu'on reçoit régulièrement un nouveau petit document qui modifie toutes ces règles, et ce qui fait que le régulateur a beaucoup de mal à suivre la vitesse des banques, sans parler des médiateurs, des banques qui sont souvent un peu inutiles, même si toutes en ont un, et elles vous répondent souvent que vous n'êtes pas dans la bonne catégorie et qu'il faut donc passer par un autre service, généralement celui de la banque elle-même, sans parler des frais bancaires en cas de décès, où là on est dans un secteur tout à fait flou, où très souvent les banques gardent et peut-être d'ailleurs utilisent les sommes d'argent qui ont été bloquées à la mort de quelqu'un sans que personne ne puisse trop se manifester, ou s'il se manifeste, c'est avec beaucoup de difficultés encore.
Alors en fait, non, les banques peuvent quand même pas utiliser l'argent des personnes décédées.
Elles l'utilisent de toute façon, par nature, elles utilisent l'argent qui est déposé chez elles.
Donc. Oui, elles l'utilisent effectivement comme ça, mais en tout cas, ils peuvent pas le confisquer. Non, ce qu'on a remarqué effectivement, c'est que les frais de succession faisaient partie des frais qui avaient le plus augmenté ces dernières années. Alors c'est assez simple, tout simplement parce que la personne qui se fait prendre des frais bancaires n'est plus là pour protester. Et souvent, les ayants droit de ces personnes-là sont pas forcément au courant. Ils sont pas en position de force.
Elles veulent régler le problème. Ouais. Elles ne cherchent pas à faire des économies.
Et de toute façon, ça a été signé par le défunt, donc il y a plus grand-chose à dire. Quoi.
Alors il y a la question des virements instantanés pour les particuliers. Alors là, c'est tout nouveau, c'est en train de se mettre en place. Il faut 10 secondes, 24/24, pour transmettre à n'importe qui de l'argent. C'est quelque chose qui va beaucoup se généraliser. On dit d'ailleurs que on table sur 2 à 3 à 5 milliards de virements qui auront lieu en France dans les années à venir. On dit c'est des évaluations pour 2022, donc ça va devenir quelque chose de très important, ces virements instantanés. Or, ils sont payants, souvent à hauteur d'un euro, a-t-on appris, même s'ils sont gratuits chez Arkéa ou Boursorama, selon un article récent du journal Le Monde. Alors là, comment ça se passe? Si vous transmettez 20 euros, on vous en prélève 1, c'est quand même un peu cher.
Aujourd'hui, c'est censé être un virement utilisé dans des circonstances exceptionnelles, donc c'est un nouveau service. Cette ligne tarifaire n'existait pas
auparavant,
il y a encore 2 ans. Et effectivement, les banques ont le droit de pratiquer le tarif qu'ils veulent. Et c'est d'ailleurs toute la complexité des frais bancaires, c'est que dans une plaquette tarifaire, vous avez 300 tarifs et que le régulateur ou les autorités peuvent pas être derrière chacune de ces lignes tarifaires.
Et le consommateur ne peut pas les lire parce que de toute façon, il n'y comprend rien et c'est très complexe.
Il aura du mal à savoir quelles sont les lignes importantes et les lignes moins importantes, même s'il y a eu des progrès là-dessus.
Autre exemple, les frais bancaires. Alors, ça ne concerne pas tout le monde, mais malgré tout, les PME, les auto-entrepreneurs, les start-up, là, c'est un secteur particulier. On quitte l'usager particulier. Et alors là, pour le coup, tout devient très, très délirant. Les facturations sont incessantes. Alors, j'ai regardé un certain nombre de comptes. 70 euros pour frais de commission à la caisse d'épargne. Frais de dossier court terme, 50 euros aussi à la caisse d'épargne. BNP Paribas ne fait pas beaucoup mieux, je vous rassure. Bref, là, c'est un peu les limites de la Startup Nation. Il est peut-être urgent d'autoriser les banques en ligne pour les sociétés avec des couverts et cartes Visa, ce que propose un peu Quanto par exemple dans les nouvelles sociétés, mais n'a pas ces facilités qu'ont les banques traditionnelles puisque la loi ne les autorise pas. Donc là, on est encore sur un problème propre aux start-up, mais malgré tout aux auto-entrepreneurs, mais qui coûte cher finalement aux individus.
Alors c'est la situation des consommateurs particuliers est déjà difficile. Effectivement, dès qu'on devient un petit professionnel, en particulier un petit professionnel, là c'est très très compliqué. appliquer puisque vous n'avez plus aucune loi pour vous protéger. Le code de la consommation, il s'applique pas par définition aux professionnels. Et donc effectivement, toutes les plaquettes tarifaires qui sont un minimum régulées en France pour les consommateurs le sont pas du tout pour les professionnels. Et là, c'est aux professionnels de se débrouiller. Et effectivement, jusqu'à présent, il n'y avait pas beaucoup d'alternatives aux banques traditionnelles, aux grandes banques qui facturent très
cher. Donc là, la solution, c'est d'autoriser des banques en ligne qui vont faire des tarifs plus avantageux et peut-être créer une concurrence qui, malheureusement, n'existe pas puisque toutes les banques sont sur des tarifs très proches.
Vincent, oui, voilà, justement, une des solutions, et je crois que c'est l'UFC Que Choisir qui l'a proposé, c'est de simplifier le changement de banque, tout simplement, en mettant en place la portabilité du numéro de compte bancaire.
Oui, mais pour une société, c'est très complexe.
Oui, mais s'il y a une portabilité, c'est comme pour le numéro de téléphone. C'était complexe quand on devait changer de numéro de téléphone.
Toutes les banques ont les mêmes tarifs. Changer de banque, ça sert pas à grand chose.
Oui, mais si potentiellement une banque peut récupérer tout le marché pro, je pense que
elle fera des efforts.
La grille tarifaire. Ouais.
Alors, autre exemple concernant les transports. Alors là, pour le coup, c'est les retards sur les billets d'avion ou de train. On se souvient de la grève Ryanair où tout le monde a espéré être indemnisé. Ça a été très compliqué. On voit bien là encore problème considérable d'aller sur Internet pour se faire rembourser un billet de train ou parfois la somme en jeu est pas si importante que ça et ça prend des heures encore.
Alors effectivement, l'année 2018 a été une annus horribilis dans le transport aérien puisque les retards ont progressé de 107% par rapport à l'année d'avant. Donc on a eu deux fois plus de retards et de problèmes pour les passagers, ce qui est assez paradoxal puisque ça fait 15 ans, on fête les 15 ans de la directive transport aérien cette année.
Qui était censée simplifier tout ça.
Ouais. Voilà, qui était censée améliorer l'indemnisation des consommateurs. Alors il faut dire qu'on n'est pas aidé, on n'a pas été aidé en 2018 non plus en France, puisque la Cour de cassation, donc la Cour suprême française, a estimé qu'il ne suffisait pas d'avoir acheté un billet d'un vol qui aurait connu un retard après pour pouvoir être indemnisé. Elle a pris une décision où elle dit qu'il faut pouvoir prouver qu'on a pris l'avion. Ce qui est, en fait, et là,
ça veut dire garder les fameux petits le problème, boarding pass.
Ouais. Oui, mais les boarding pass, aujourd'hui, vous pouvez vous enregistrer en ligne.
Et ouais. Vous les avez plus.
Et vous les avez, mais ça vous permet pas de prouver que vous étiez à l'aéroport ce jour-là. Mm-hmm. Donc en fait, il ne reste plus beaucoup de solutions. une des premières solutions, la plus simple, c'est d'enregistrer.
De se prendre en photo devant la
caméra. Oui, voler la couverture.
Ne rigolez pas, ça fait partie des solutions. Ça fait partie des solutions. Non, la solution de base, c'est de mettre ses bagages en soute parce qu'on a le reçu.
Ah bah voilà.
Sauf que les gens le font de moins en moins avec les compagnies low cost.
Parce qu'il faut payer pour ça.
D'ailleurs, il faut payer pour ça. Donc effectivement, ou sinon, effectivement, se prendre en photo devant dans l'aéroport.
Cette émission et plus globalement, il y a toute la question des abonnements. Alors c'est très facile de s'abonner en ligne et c'est quasiment impossible souvent de se désabonner, que ce soit SFR où ils avaient tout simplement supprimé l'adresse pour résilier. American Express, ça c'est pour des gens plus riches, mais là il fallait un mois avant la date anniversaire, mais pas trop, mais pas avant et pas après évidemment, par lettre recommandée, alors qu'on s'est inscrit en ligne. Bref, sur toutes ces questions, pour terminer très brièvement, quelles sont les solutions que vous préconisez l'un et l'autre? Éducation aux médias, éviter d'utiliser, on l'a dit, de mettre son numéro de téléphone, ne pas se loguer sur un site en utilisant Facebook, par exemple, etc. etc. Vincent Caucase ?
Au tout début de l'émission, on a parlé de culture numérique, et je pense que là, effectivement, c'est crucial sur ce sujet. On l'a dit, les principales victimes, c'est les gens les plus jeunes qui n'ont pas encore cette culture numérique, et les gens les plus âgés qui n'ont pas grandi avec ces outils et qui ne sont pas forcément à l'aise. Donc oui, ça passe par une éducation au numérique la plus large possible, et effectivement, une éducation aux médias et à l'information, parce que c'est un écosystème. En fait, c'est pas simplement, ça va pas être des outils techniques qu'on va donner aux gens, il faut cliquer ici, il faut cliquer là. C'est plutôt qu'est-ce qu'on fait de ces données personnelles, où est-ce qu'on les inscrit, où est-ce qu'on a le droit de ne pas les inscrire, comment on crée une autre adresse email. Donc voilà, pour moi c'est effectivement vraiment un enjeu d'éducation.
Brièvement, Maxime Chipoy, conclusion.
Effectivement, il y a une problématique d'éducation générale, de savoir dire non au démarchage, mais il y a des solutions qui sont simples. On parlait tout à l'heure de boîte email poubelle. Mmh. On peut faire à peu près la même chose avec sa carte bancaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des comptes de néobanques qui vous permettent d'avoir une carte bancaire utilisable comme n'importe quelle carte bancaire.
Très bon marché.
Oui, c'est souvent des offres gratuites en plus. Et sauf que ces comptes-là ne vous permettent pas d'être à découvert. Donc vous prenez un compte dans un de ces établissements, vous mettez 100 ou 200 euros, et puis après vous faites vos transactions sur Internet. Si jamais vous faites frauder ces codes-là, ces codes de carte bancaire-là, de toute façon, vous ne pourrez pas perdre plus que ce qui vous reste sur le compte. C'est une solution assez simple.
Bien, mais vous ne serez pas interdit bancaire à tout jamais dans toutes les banques.
Non, parce que comme il n'y a pas de découvert, il n'y a pas d'interdit bancaire.
Bien, il est 20h sur France Culture. Merci infiniment à tous les deux et à vous, Zoé Sfès, d'avoir été ce soir dans cette émission. Maxime Chipoy, porte-parole de meilleurbanque.com. Vincent Coca, journaliste à Libération. Soft Power, dans un instant, la seconde partie de cette émission. Avec à 20h10, le club de la presse numérique, nous parlerons ce soir de l'étrange revirement de Facebook sur les données personnelles. Et nous serons pour en débattre avec Gilles Fontaine de Challenge et Eliott Lepers, fondateur de l'ONG Le Mouvement.ONG. Dans un instant, Zoé Sfès, votre invité est Dominique Cardon. Tout ça à suivre après Geza Feldstein et Pharrell Williams sur France Culture. Titre Blast Off, extrait de l'album du producteur français Geza Feldstein, qui vient de sortir ce vendredi. L'album intitulé Hyperion est bien différent du premier album de l'artiste sorti en 2013. On y trouve de nombreuses collaborations avec des grands artistes plus pop comme The Weeknd ou Pharrell Williams qu'on entendait à l'instant.
France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Sfès.
Bonsoir Dominique Cardon.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, on est ravis de vous recevoir. Vous êtes sociologue, vous avez fait partie un peu des pionniers de votre discipline à vous intéresser alors au numérique, on va en parler, mais et à sa culture. Parmi vos ouvrages les plus importants, on peut citer La démocratie Internet, Promesses et limites, c'était au Seuil en 2010. Et puis votre dernier en 2015, enfin pas tout à fait le dernier, qui a beaucoup marqué, À quoi rêvent les algorithmes ? Nos vies à l'heure des big data. Vous avez aussi publié avec Antonio Casilli, que nous recevions il n'y a pas si longtemps ici, Qu'est-ce que le digital labor ? Et aujourd'hui, vous publiez Culture numérique aux presses de Sciences Po. Sciences Po où vous enseignez, vous êtes responsable du Media Lab et vous avez un cours de culture digitale, on m'a dit que vous le donniez sous format vidéo. Ce livre s'appelle Culture numérique et ça n'est pas un ouvrage de sociologie comme on en a connu pour vous, c'est plutôt quoi ? Une bible, un cours, un guide, qu'est-ce que c'est que cet ouvrage ? Comment vous le définiriez ?
Ben, c'est-à-dire que moi je suis un chercheur qui adore enseigner, voilà. Et le contact avec les étudiants, donc ça fait des années que dans des universités différentes, d'ailleurs à Paris 1 ou à l'université Paris-Est, puis aujourd'hui à Sciences Po, bah j'ai en face de moi des étudiants et je leur fais un cours assez général de culture numérique, qui est un cours transverse, qui essaye de prendre le numérique dans sa version étendue, large, avec de l'histoire, de l'économie, de la géographie, de la sociologie, de l'étude des techniques. Et d'une certaine manière, l'objectif de cet ouvrage, c'est d'essayer de rendre accessible, très transverse, mais ouvert sur des questions de recherche avec beaucoup de bibliographie, puis beaucoup d'illustrations. Cette manière un peu de voyager dans le numérique de façon à la fois curieuse et critique.
Alors effectivement, on va le redire, je le dis très franchement, c'est un très bon livre qui, comme vous le dites, est très, à chaque fois enrichi de schémas. Par exemple, pour quelqu'un comme moi qui a beaucoup de mal avec les aspects techniques, c'est très très digeste et à la fois précis, avec à chaque fois pour chacun de vos chapitres dans les six grandes parties que vous abordez, une bibliographie et puis parfois des émissions à écouter, des vidéos à regarder, donc vous ne vous privez d'aucun support. Mais vous le dites en introduction, d'ailleurs, dans la courte mais très efficace introduction que vous donnez pour ce livre, il est indispensable que nous nous forgions une culture numérique. Et il y a deux projets qui s'affrontent aujourd'hui, vous l'avez dit. Ceux qui disent il faut coder, il faut qu'on enseigne le code dès la primaire, ça fait partie des propositions récurrentes ces dernières années des différents ministres de l'éducation. Et d'autres qui disent il faut plutôt apprendre à décoder, des gens qui veulent enseigner ce qu'on appelle, vous appelez ça, la littératie numérique, c'est-à-dire, en gros, on peut dire les enjeux théoriques, économiques, les enjeux macro de fond qui sont liés au web. C'est quoi ces deux tendances? Et vous, vous prenez quoi? Quand? À quel âge?
Oula, à quel âge? C'est difficile de dire, mais oui, il y a un peu de deux écoles. Moi, je pense qu'il faut tenir les deux écoles absolument ensemble. Le numérique, c'est à la fois une exploration curieuse des techniques, même je dirais presque une sorte d'amour des techniques. On vit dans des environnements sophistiqués avec des outils, des objets numériques et des écrans et des interfaces. Comprendre comment elles fonctionnent, comment elles marchent et comment derrière il y a quelque chose qu'on appelle de l'informatique, c'est-à-dire du code, ça devient aujourd'hui quelque chose vraiment d'important. Et je pense que les démarches qui sont entreprises aujourd'hui pour l'enseigner dès la seconde, hein, puisque c'est l'initiation va venir en seconde dans les nouveaux programmes scolaires actuels, est importante. Mais c'est vrai que cet ouvrage, il est plutôt du côté de ma spécialité, qui est plutôt le décodage, c'est-à-dire il faut aussi savoir l'interpréter, savoir entendre que le numérique a une histoire, qu'il a été façonné avec une sorte de projet, qui est à la fois un projet culturel, politique, qui est en train de se répandre et de transformer nos sociétés, et que en comprendre les mécanismes, les rouages, tous ces différents aspects est une des choses très importantes pour ne pas tomber dans cette sorte d'idée que finalement la culture numérique tout le monde l'aurait puisque tout le monde utilise les interfaces avec agilité. Alors mon idée, moi, c'est que la culture numérique c'est autre chose qu'être agile avec ces différents services que nous offre le web aussi. C'est aussi savoir les explorer, les comprendre, savoir être plus curieux que ce que nous offrent les plateformes de façon un petit peu toute faite.
Mais justement, c'est une question à laquelle je vous ai demandé de réfléchir d'ailleurs avant que vous arriviez, mais vous enseignez donc à Sciences Po, avant ça vous enseignez ailleurs, vous enseignez dans plusieurs universités, vous avez été à l'EHSS, mais globalement, les gens à qui vous enseignez, vous avez l'impression que sur cette espèce d'histoire, et ça va de la généalogie de l'internet à l'intelligence artificielle, vous traversez tout ça dans ce livre, vous avez l'impression que les plus grandes ou les plus profondes méconnaissances, elles se situent où?
Ben il y a beaucoup de choses comme ça qui sont quand on est confronté à des publics, il y a des attendus qu'on vient un petit peu défaire parce que le internet c'est pas pareil que le web. Quand on a beaucoup d'amis sur Facebook, ça veut pas dire qu'on discute avec beaucoup de gens. On a 150 amis, mais on discute avec 10 personnes. Dans les publics comme ça, on a toujours cette idée que finalement quand Google classe l'information, pas sur la publicité mais ce qu'on appelle le classement organique, c'est celui qui a le plus de clic qui est en haut, non, c'est pas la bonne réponse. On a un débat aujourd'hui incroyable avec l'intelligence artificielle, et quand on raconte l'histoire de l'intelligence artificielle et qu'on constate que les techniques qui marchent aujourd'hui, celles qu'on appelle des réseaux de neurones, sont en fait des techniques qui font revenir des choses de la cybernétique que l'intelligence artificielle, quand elle est apparue dans les années 50, avait essayé de critiquer, de détruire, on pourrait presque dire. Donc on a toute une série de rebondissements, d'éléments de curiosité, de transformation aussi, ou de nos sociétés qui sont importantes de décrypter. C'est ce que j'essaie de faire.
Et alors justement, vous revenez notamment effectivement sur cette différence entre l'internet et le web. Vous avez six grandes parties, six grands chapitres, donc on part effectivement de rappels extrêmement, on va dire, essentiels, notamment cette différence entre l'internet et le web, avec cette dernière partie qui, disons, est probablement l'une des plus politiques, ou en tout cas l'une des plus prospectives, qui alerte aussi sur l'énorme fantasme que suscite aujourd'hui cette transformation numérique des sociétés. Peut-être on peut revenir sur peut-être deux chapitres. Il y en a une que vous appelez la culture participative et les réseaux sociaux, et la deuxième qui est le big data et l'algorithme. Ça, c'est d'ailleurs le dur de ce sur quoi vous travaillez depuis plusieurs années, vous. À la fois, vous le dites, il y a un manque criant de culture, et à la fois, il y a une énorme fantasme de danger. Où se situe la réalité?
Si vous voulez, alors moi, ça fait longtemps que je fréquente les milieux des technologies, et le débat public est toujours un peu compliqué. C'est toujours le cas avec les technologies. Hein. Mmh. Donc on appelle ça des sortes de paniques morales. C'est-à-dire vous avez des prophètes qui vous annoncent que le monde va être transformé, que la démocratie va émerger du numérique, que l'intelligence artificielle va résoudre tous nos problèmes, etc., etc. Puis vous avez de l'autre côté et qui cherchent à vendre aussi hein, mmh. des technologies. Et cette promesse est constamment présente, nourrie de science-fiction et renouvelée constamment dans le débat public.
Ça, vous en parliez d'ailleurs dans Digital Labor avec Antonio Caselli. Vous montriez comment des entreprises qui aujourd'hui vendent de l'intelligence artificielle vendent une intelligence artificielle plus intelligente qu'elle ne l'est en réalité, que derrière beaucoup d'intelligence artificielle, il y a encore beaucoup de travail humain. Voilà, effectivement, aussi sur l'image que les acteurs dits du marché véhiculent du numérique, il y a aussi cette part de fantasme qui est portée.
Oui, c'est pour ça qu'il faut une culture numérique. Parce qu'une culture numérique, ça vous aide à avoir cette sorte de distance pour pas ne prendre pour argent comptant beaucoup d'arguments qui viennent comme ça dans le débat. Tout en restant curieux, parce que moi, c'est pas une position intermédiaire et centriste, hein. C'est vraiment de se dire, en fait, le numérique est plus intéressant que ce que disent les prophètes et les cassandres critiques, hein. C'est qu'entre les deux, il y a quelque chose qui s'est installé dans nos sociétés, quelque chose qui est devenu omniprésent dans nos déplacements, dans nos rencontres, dans nos sociabilités, dans les formes d'action politique qui sont mises en œuvre aujourd'hui, dans l'économie et le commerce, et que ces transformations, elles sont en train de modifier beaucoup plus doucement, mais en même temps de façon plus subtile, les différents aspects de notre vie sociale que ne laissent entendre ceux qui font du déterminisme technologique. Et d'une certaine manière, ce que cherche à faire la culture numérique, c'est d'essayer de dire, c'est pas la technologie qui fait ça, c'est pas l'algorithme de Facebook qui fait les gilets jaunes, c'est le fait que on a un nouveau système de circuit de l'information qui s'est mis en place grâce au numérique, mais qui rend possible des transformations de nos sociétés qui sont liées aux transformations des rapports sociaux et politiques et culturels de nos sociétés, encastrées dans le numérique. Et c'est cet encastrement, cette articulation nouvelle entre les sociétés et la technologie numérique qui est la chose la plus intéressante qui soit aujourd'hui.
Une dernière question, justement. Ce terme d'humanité numérique, on a l'impression qu'il a disparu. Votre livre s'appelle Culture numérique. Vous parlez de littératie numérique. Il y a eu un moment où il y a eu ce terme. Qu'est-ce qu'il est devenu ?
Mais c'est un terme que beaucoup d'autres chercheurs emploient. Ce qui me gêne dans ce terme, c'est justement ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire, il laisse entendre qu'il y aurait d'un côté les humains, puis de l'autre côté la technologie. Alors moi, ce que je cherche à dire, c'est que les deux sont encastrés. Nous sommes ici dans un studio de radio. C'est un équipement technologique absolument incroyable qui produit une chose parfaitement humaine, qui est la voix qui est transmise vers les auditeurs. Il faut un assemblage de technologie et d'une équipe, d'une rédaction, d'individus qui sont ici rassemblés pour arriver à faire fonctionner ce studio de radio, pour produire cette idée d'une humanité qui passe à travers la voix. C'est l'assemblage qui est numérique, qui est au cœur de cet ouvrage.
Je vous remercie beaucoup, Dominique Cardon. Culture numérique, c'est donc publié aux presses de Sciences Po. Je pense que c'est un cadeau qui peut s'offrir à beaucoup de monde, mais réellement.
Cadeau de Noël.
Y compris cadeau de Noël du printemps, y compris à des gens qui sont initiés, parce que c'est si transversal qu'on apprend forcément quelque chose. Et j'appelle notamment à lire le très bel article que vous consacrez aux réseaux sociaux, et je passe la parole à Frédéric Martel, puisqu'on va parler du changement de politique sur les données personnelles engagées, ou en tout cas initiées probablement bientôt par Facebook.
Dominique Cardon, merci. Vous pouvez rester avec nous si vous voulez, peut-être vous réagirez justement sur ces questions qui arrivent.
Soft Power, le club de la presse numérique, Frédéric Martel.
France Culture, le club de la presse numérique, on parle ce soir de l'étrange revirement de Facebook sur les données personnelles et nous sommes pour en débattre avec Gilles Fontaine de Challenge et Eliott Lepers, entrepreneur fondateur de l'ONG, le mouvement.ONG. Alors cette semaine, le fondateur et patron de Facebook, Mark Zuckerberg, a annoncé un revirement stratégique de son entreprise qui, rappelons-le, possède également la messagerie WhatsApp et le service Instagram. Mark Zuckerberg dit vouloir faire de Facebook un groupe focalisé sur le respect de la vie privée de ses utilisateurs. Alors qu'il reconnaît lui-même que son entreprise est très critiquée par la presse, Zuckerberg annonce vouloir rendre ses messageries instantanées cryptées de bout en bout et de réduire le temps pendant lequel les messages échangés sont conservés. Ce revirement annoncé de Facebook est décrypté ce soir dans Soft Power par Gilles Fontaine et Eliott Lepers. On commence par vous, Eliott Lepers.
Oui, effectivement, c'est un peu un changement de philosophie pour Facebook et de dire, il emploie ces mots, il dit que jusqu'à maintenant, Facebook était une place publique, donc c'était de connecter des humains, c'était d'ouvrir, c'était de créer, de récolter le plus de données possible et puis de les mettre en réseau à disposition des annonceurs. Et il veut passer d'un modèle de place publique à un modèle de salon où on est dans des plus petits cercles avec des gens intimes, avec des gens qu'on connaît, avec des gens à qui on fait confiance et avec des échanges effectivement qui sont sécurisés, soit parce qu'ils sont gardés moins longtemps, comme c'est le cas avec beaucoup de succès sur Snapchat ou sur Instagram avec les fameuses stories, soit effectivement en encryptant les communications comme c'est le cas sur WhatsApp. Et donc effectivement l'intermédiaire qui est WhatsApp ou Facebook ou l'entreprise en tout cas n'est pas capable de lire le contenu de ces messages. Et donc c'est effectivement une évolution, mais qui est une évolution surtout qui est déjà existante dans les usages. C'est tout simplement que les usages aujourd'hui de publication à tous les vents de nos informations sont en baisse, alors que les usages plus restreints sont en augmentation. Donc c'est simplement Facebook qui suit l'évolution naturelle des usages tels qu'ils les observent et donc pour adapter leurs services à leurs utilisateurs.
Gilles Fontaine, au fond, qu'est-ce que prépare Mark Zuckerberg? Est-ce qu'on peut lister un petit peu les évolutions annoncées, cryptage des informations, interaction privée, réduction de la durée de conservation des messages, etc.
Voilà, alors on peut imaginer une certaine dose d'hypocrisie hein, dans tout ce que Mark Zuckerberg peut-être.
Pourquoi
j'imagine que tout n'est pas forcément senti. Moi, j'ai toujours cette image, je me dis, si Mark Zuckerberg était un Moldave de 50 ans avec une grosse moustache et une chaîne en or autour du cou avec des poils qui descendent, on lui confierait pas toutes nos données et on raconterait pas les mêmes choses.
Parce
et
qu'il
on
serait est pas, californien, voilà, qu'il vient d'Harvard.
Il faut croire que le hoodie change beaucoup.
Le hoodie, c'est son
sweat à capuche qui portait un petit peu moins là ces derniers temps. Mais c'est vrai que comme le disait Eliott, c'est plus une évolution qu'une révolution. Ce que veut faire aussi Mark Zuckerberg, c'est essayer de sortir de l'impasse où il se trouve aujourd'hui, où il est à la fois combattu par beaucoup de régulateurs et de gouvernements dans le monde sur le problème effectivement de l'utilisation que son groupe fait des données privées de ses utilisateurs
et son modèle économique en fait parce que son modèle économique
je reviendrai et puis il y a une autre chose, c'est aussi une tendance qui monte très fort aux États-Unis dans la campagne pour la candidature à l'élection présidentielle avec une sortie assez violente d'une des candidates de au primaire démocrate,
Elizabeth Warren,
la sénatrice
de Boston, de Massachusetts,
exactement, et qui elle a promis qu'elle mettrait ça sur l'agenda, en tout cas le démantèlement des GAFA et notamment de Facebook. Il faudrait que Facebook se sépare justement
services.
De ses messageries WhatsApp, Messenger et autres. Pour Mark Zuckerberg, c'est une façon d'essayer de se sortir effectivement vers le haut. Après, il y a effectivement la question du modèle économique de Facebook. Facebook, qui repose à plus de 95% encore aujourd'hui sur la publicité. Et c'est un modèle qui, même Google, essaie d'en sortir. La publicité, c'est bien, mais on ne peut pas continuer avec des taux de croissance phénoménaux comme l'ont connu tous ces groupes, sans à un moment donné aussi avoir des bases plus solides sur la monétisation autre que la publicité. Et là-dessus, il y a un modèle qui est intéressant, qui n'est pas américain, qui est chinois, qui est celui de WeChat. Et WeChat, la publicité, c'est plutôt une contrainte, en fait. Et le fondateur de WeChat, Alan Tsang, dit « Moi, mon service, je considère que c'est comme mon meilleur ami. Donc, si je veux parler à mon meilleur ami, je ne vais pas d'abord attendre qu'il y ait une minute de publicité qui passe avant de commencer à lui parler. J'ai envie de passer beaucoup de temps avec lui. » Donc, la publicité sur WeChat est absolument minimale. Et le groupe se rémunère essentiellement, c'est un peu plus d'un milliard d'utilisateurs. Le groupe se rémunère sur tous les services. Ils ont un service de paiement qui s'appelle WeChat Pay, je pense, je ne me souviens plus exactement du nom, et qui lui permet de toucher un pourcentage sur chacune des transactions, commandes de nourriture. Ils ont même des services financiers. Alors, ils ont fait aussi beaucoup d'argent sur la vente de jeux vidéo en ligne, mais c'est aussi des services financiers et tout un tas d'autres prestations que payent ses utilisateurs.
Elliot Lepers, est-ce que on a évoqué la question du modèle économique? Un journaliste qui publie une newsletter quotidienne sur Facebook qui s'appelle Casey Newton explique que ces déclarations de Mark Zuckerberg sont essentielles là pour lui faire gagner du temps pendant qu'il construit et développe de nouvelles sources de revenus pour son entreprise, notamment autour du commerce et de moyens de paiement. Et on sait que Facebook travaillerait sur une blockchain pour sécuriser des paiements, une sorte de sa propre crypto-monnaie.
Oui, je pense que Facebook, ils sont encore en train d'accuser une perte de 120 milliards de capitalisation qui date de l'été 2018. Et donc, effectivement, ils cherchent à savoir comment est-ce qu'ils répondent à des utilisateurs plus jeunes et qui ont de différentes attentes. Et ils évoquent cette question, effectivement, de diversifier les revenus pour ne plus dépendre uniquement des données personnelles, comme d'ailleurs Apple le revendique très, très fièrement en disant, nous, notre modèle économique, c'est de vendre des produits, c'est de vendre des produits qui protègent votre vie privée. Et d'ailleurs, les produits aujourd'hui d'Apple sont plus intéressants, si vous voulez protéger votre vie privée, que des produits édités par Google notamment. Et donc c'est intéressant d'exclure la question du traitement et de la revente de données personnelles de son modèle économique, parce que finalement c'est la seule manière de réussir à être crédible sur cette question. Il y a une étude intéressante qui a été faite en septembre 2018 par le Pew Research Center qui montrait que 74% des utilisateurs US de Facebook ne savaient pas qu'ils étaient fichés, ne savaient pas que des données étaient recueillies tout au long de leur navigation et de leur comportement sur la plateforme pour construire un profil qui permettait de cibler de la publicité.
Ce qui paraît fou parce qu'en plus, on finit quand même assez vite par s'en rendre compte. Mais Dominique Cardon, dans votre partie sur les réseaux sociaux, vous commencez d'ailleurs par établir une forme de typologie avec trois types de réseaux sociaux. Ceux qui sont totalement ouverts, les MySpace, ceux qui sont fermés ou en tout cas qui nécessitent. Et puis tout cela, Facebook et donc WhatsApp, que vous appelez le clair-obscur, c'est ça je crois, c'est cette formule?
Oui, absolument. C'est-à-dire Facebook, c'est une histoire assez étonnante parce qu'ils ont commencé le service sur l'idée de la petite sociabilité, d'être très proche de la conversation, et qui suscite évidemment des usages massifs. C'est pour ça que Facebook, c'est pas Twitter. Facebook, c'est vraiment diffusé. Twitter, c'est un tout petit cercle. Et parce qu'on est dans un espace en clair-obscur. On se montre, mais pas à tout le monde.
Oui, c'est ça. On se montre,
et
on choisit
puis,
à qui on se montre.
Pour des raisons qui viennent d'être évoquées, c'est-à-dire le modèle économique, ils ont élargi l'algorithme du newsfeed, a laissé passer beaucoup d'autres choses qui n'étaient pas le petit cercle des gens avec lesquels j'ai l'habitude de converser. Parce que quand je suis en train de converser avec un tout petit nombre de personnes, on peut mettre toute la publicité qu'on veut sur le côté, ça clique pas. Voilà. Et donc ça. Donc ils ont élargi pour augmenter les revenus, ce qu'ils ont fait
avec succès,
les risques.
Et donc c'est
avec les risques que l'on sait, voilà. C'est qu'ils ont à la fois fait transformer l'usage de Facebook. Ça c'est très important. Facebook qui était un espace de conversation et de dialogue était devenu une télévision. On voyait des vidéos défiler. Donc les gens sont partis vers Snapchat, WhatsApp
et comment et vous regardez services. Est-ce que là ça peut changer?
Là, on voit bien que la tendance actuelle face à la critique et au problème massif que ça pose, c'est qu'ils sont en train de revenir au modèle initial, mais ils essaient de revenir au modèle initial tout en maintenant la captation de données personnelles pour leur modèle publicitaire, parce que tant qu'ils n'ont pas changé ce modèle, et c'est très difficile à faire, ils seront toujours dans la même situation.
Gilles Fontaine, un mot peut-être sur la fusion envisagée, qui est l'autre sujet dont on a d'ailleurs déjà parlé dans cette émission. Fusion, imaginez des services de messagerie. On rappelle qu'il y a des messages directs sur Instagram, il y a Messenger et bien sûr WhatsApp, les trois appartenant à Facebook.
C'est effectivement le projet. Alors là, il le décrit de façon un peu plus précise, effectivement. C'est dans la logique de ce qu'on a dit depuis le début de cette émission, c'est-à-dire que on passe de la place publique au salon. Et effectivement, WhatsApp, c'est la conversation de 1 à 1, voire le cercle familial ou le petit groupe d'amis. Instagram, c'est aussi quelque chose de plus intime. Messenger, pareil, c'est de la messagerie et beaucoup utilisé aussi dans les entreprises, d'ailleurs. Et c'est beaucoup plus riche en termes de données que ce qu'on pouvait trouver sur Facebook, puisqu'on voit vraiment de l'échange intuitu personnel. Ce qui est intéressant aussi de dire, c'est que Facebook s'engage sur le cryptage des communications. Ils ont juste dégradé, depuis qu'ils ont racheté WhatsApp, ils avaient dégradé le cryptage sur WhatsApp, ce qui leur a été beaucoup critiqué. Et aujourd'hui, l'algorithme de Facebook est tellement puissant qu'à la limite, ils connaissent leurs utilisateurs. Et le simple fait de savoir qu'ils se parlent, que c'est Elliot qui parle à Gilles, Déjà pour eux, ça vaut énormément. Ils ont même plus besoin de savoir, comme ils savent déjà
ce qu'ils se disent.
Ils nous connaissent déjà. Ils ont même plus besoin de savoir. Le simple fait de savoir qu'on échange à un instant donné, c'est déjà une mine d'or pour eux.
Elliot.
Et d'ailleurs, ce projet-là de fusionner toutes ces sous-instances de Facebook a été très fermement condamné en Allemagne avec l'institution antitrust, quoi. En Angleterre, WhatsApp a été obligé de s'engager à ne pas fusionner, et la CNIL a critiqué le partage de données de 10 millions d'utilisateurs en France qui n'avaient pas été traitées dans les formes, quoi. Donc effectivement, il y a beaucoup de contraintes aujourd'hui juridiques qui laissent entendre que cette fusion, elle n'est pas vue d'un bon œil par les institutions, en tout cas en Europe.
Ça ferait 2,2 milliards d'utilisateurs qui seraient tous interconnectés grâce à cette fusion des messageries. Revenons sur l'un des risques pointés, peut-être à juste cause pour une part par Mark Zuckerberg. Il dit, si on chiffre de bout en bout, ça va créer des espaces de discussion qui vont permettre de commettre alors des actes criminels, de se vendre de la drogue, etc. Ici notamment et également le terrorisme et l'exploitation d'enfants.
Oui, mais il y a déjà des messageries qui existent. D'ailleurs, les fondateurs de WhatsApp...
Comme Signal
Voilà, c'est la messagerie qui a été créée par les fondateurs de WhatsApp qui ont quitté l'entreprise, furieux de voir de ce que Mark Zuckerberg faisait de leur création. C'est-à-dire qu'ils s'étaient engagés justement à ce que le cryptage ne soit pas dégradé, à ce que les données ne soient pas partagées avec celles qu'on recueille sur Facebook. Or, ils l'ont fait. Les engagements de Mark Zuckerberg, on les connaît.
Il les a déjà pris.
Mais c'est dans l'ADN de ce genre de groupe où on est toujours sur le fil et on essaie toujours de pousser un peu plus loin, on teste les régulations, on teste les législations, on teste la capacité des gouvernements et des régulateurs à réagir ou pas. Et en l'occurrence, pour eux, il y a un boulevard qui s'ouvre parce que, effectivement, les amendes qu'on leur a infligées pour ne pas avoir respecté leurs engagements sont absolument ridicules. Enfin, on parle de quelques centaines de milliers d'euros dans le pire des cas.
Les solutions alternatives sont donc Signal, par exemple, ou encore Telegram.
Il serait contesté aussi sur le chiffrement de Telegram.
Pourquoi ?
Globalement, on a assez peu d'éléments sur les technologies qui sont utilisées. Le financement provient quand même beaucoup des autorités russes. Et il y a des liens, effectivement, qui sont assez troubles sur la géopolitique de Telegram. Donc, pour l'instant, c'est plutôt
Signal. Il y a tort aussi.
Autre débat. Autre solution, les utilisateurs, pourraient paramétrer le temps pendant lequel leurs messages sont conservés. Est-ce que c'est une bonne idée, selon vous ?
Oui. Non, mais on parle depuis toujours, mais là, on parle...
Là, on retrouve Snapchat, pour le coup. Par exemple.
La plupart des utilisateurs aujourd'hui de ce type de service, quand on parle de droit à l'oubli, je pense que c'est effectivement ce qui a pu poser problème à beaucoup d'utilisateurs qui se sont retrouvés parfois dans des situations un peu désagréables. Bon, on parle du candidat à un poste dont on retrouve la vidéo en train de boire des bières un peu trop fréquemment avec ses camarades, mais c'est vrai que ça devrait être inscrit devrait être une règle de base de tous ces services, le fait qu'on puisse effacer les messages au bout d'un moment et définitivement.
Il y a un article très intéressant du journaliste du Monde, Martin Untersinger, qui dit que la note du 6 mars de Zuckerberg montre que Facebook n'a toujours rien compris à la protection des données personnelles, et notamment parce qu'elle est tout le temps proposée par Facebook sous le prisme entre les utilisateurs, c'est-à-dire se cacher des autres utilisateurs. Alors que ce qu'on demande aujourd'hui,
c'est de se cacher de Facebook.
Ouais. Et donc c'est Facebook ne collecte moins de données à notre sujet. Sur les engagements de Zuckerberg, ce qu'il faut quand même noter, c'est que c'est pas la première fois, c'est qu'il y avait déjà
on peut terminer sur ça d'ailleurs. Est-ce qu'on peut le croire encore compte tenu de son CV, si on peut dire, de son passé.
Il y a quand même eu la promesse au moment de Cambridge Analytica de nous proposer un outil pour supprimer notre historique, pour nous permettre de recréer une virginité de ciblage et donc de ne plus avoir de profil chez Facebook. On l'attend toujours. Il y a également l'engagement dans le Code of Practice qui a été porté par Mozilla de la part de Facebook de fournir un index ouvert de toutes les publicités politiques. On attend toujours les résultats, et en attendant tous les travaux de recherche recherches ont été, leur accès a été bloqué à, pour, et donc ils ne peuvent plus aujourd'hui étudier les publications sponsorisées sur Facebook. Donc effectivement, il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup d'engagement, mais in fine, rien n'est fait pour nous permettre de reprendre le contrôle de nos données.
Le mot de la fin brièvement, Gilles Fontaine.
Je pense qu'effectivement, pour reprendre Elisabeth Warren, je pense qu'une des solutions, ce serait effectivement qu'on sépare, en tout cas pour, juste pour ce qui
les
concerne
messageries,
Facebook et ses messageries. Sinon, ce sera très compliqué de les suivre ensuite.
On en reste là pour ce soir. Merci à tous les trois, Gilles Fontaine, Eliott de Perse et à vous, Dominique Ardon, qui êtes restés ce soir. Merci, Zoé Sfez, d'avoir
merci
été comme chaque dimanche dans Soft Power. Vous pouvez vous abonner au podcast de Soft Power sur le site de France Culture, sur iTunes, sur l'application podcast de votre smartphone. La semaine prochaine, nous serons au Salon du Livre et nous parlerons, nous écouterons aussi des livres audio. Dans un instant, Carbone 14, j'ai encore le temps de vous signaler que François Dubé sera l'invité des matins demain, donc sur France Culture, à ne pas rater. En attendant, merci à tous et bonne soirée à l'écoute de notre chaîne et bonne fin de week-end.